toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast L'École des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour, bonjour à toutes.
Alors Isabelle, je suis ravie de te recevoir. Je vais te présenter rapidement et puis je te laisserai évidemment la parole et te présenter toi-même. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, déjà, c'est qu'on se connaît depuis quelques mois. J'ai eu le plaisir d'avoir plusieurs échanges intenses et profonds avec toi. Tu es psychologue. Tu as un parcours très riche dans le milieu de l'orientation, du conseil et puis aujourd'hui plus de l'individu à individu. La question du féminin est une question qui te touche également. Je crois que tu as écrit un livre qui parle en partie de ce sujet. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de parler avec toi de comment tu vois la condition féminine aujourd'hui et j'irais t'interpeller un peu sur la proposition que moi je fais autour de cette femme -S, de cette femme unique aux multiples facettes. Voilà, voir comment toi, tu es cette femme, sans doute unique aussi aux multiples facettes. Est-ce que tu veux te présenter, Isabelle ?
Alors, j'ai 50 et quelques années. Je suis psychologue. Je travaille à mon cabinet. À la campagne, chez moi, à ma maison. Et j'ai un parcours dans l'orientation, l'insertion professionnelle, l'accompagnement des personnes en difficulté, beaucoup, mais notamment des femmes. J'ai notamment eu une expérience au début de ma carrière de travail avec des groupes de femmes alors c'était des personnes qui étaient en alphabétisation et en français langue étrangère et j'accompagnais ces personnes et c'était juste passionnant. On avait des discussions dès qu'elles commençaient à maîtriser un minimum de vocabulaire, c'était juste génial, c'était extrêmement riche.
Elle devait avoir des choses à raconter, ces femmes.
Des femmes qui venaient de partout, qui avaient des vécus très difficiles, mais qui avaient toujours le sourire. Ça, en tant que femme inspirante, ça a été, mes premières femmes inspirantes qui m'ont touchée, je dirais, c'était ces femmes-là, quoi.
Qu'est-ce qui t'a touchée le plus chez ces femmes, justement ?
Ces femmes qui avaient... parfois laisser des enfants derrière elle, vécu des guerres, vécu des atrocités, vécu la fuite, vécu de devoir tout laisser derrière elle, de devoir changer de vie, changer de pays, changer de culture, changer de langue, changer de mode de vie complet, de devoir trouver un travail par exemple alors qu'elles ne travaillent pas forcément dans leur pays ou complètement autre chose, des personnes qui étaient... peut-être médecin ou prof ou quoi, et puis qui devait se mettre à faire le ménage. Voilà, des femmes avec un parcours, mais de vie de ouf, et qui avaient une force en elles, un courage et toujours le sourire. Une détermination à s'en sortir, à avancer, à apprendre, à acquérir, à faire ce qu'il fallait pour elles et pour leurs enfants. Je voyais notamment les femmes en alphabétisation qui, ce qu'elles avaient envie, c'était de pouvoir suivre un peu leurs enfants dans leurs devoirs, alors qu'elles couraient derrière. Je me souviens d'une personne qui avait 64 ans, jamais tenu un crayon de sa vie, qui était des îles, je ne sais plus à quelle, elle s'appelait Marie-Louise, je me souviens, et qui s'acharnait, la pauvre, qui suait sang et eau pour essayer de tenir son crayon. Ce qu'elle voulait pouvoir faire, c'était pouvoir signer son nom, pouvoir remplir ses papiers d'identité à la fin de l'année. Et on a réussi. Histoire pour elle extraordinaire. Et je me souviens de personnes qui avaient, par contre, qui étaient très éduquées, qui avaient eu des... Là, c'était en français langue étrangère, qui avaient eu des diplômes, un parcours professionnel et qui étaient complètement dégradées là. Mais ce qu'elles voulaient, c'était s'en sortir, montrer à leurs enfants qu'on peut s'en sortir dans la vie et que n'importe quel moment de situation et que et qu'il faut quoi, il faut y aller, elles peuvent y aller. Et c'est moi, j'ai toujours admiré ce courage de ces femmes qui se plaignaient pas.
Tu sais, quand tu dis courage, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot courage, parce que courage, il y a cette force, comme tu disais, hein, cette puissance là à l'intérieur aussi, et sans doute aussi cette dureté, hein, de refaire vie, hein, après des épisodes de vie aussi difficiles. Et en même temps, courage, c'est agir avec le cœur.
Ouais.
Cœur, cours, âge, agir, agir avec le cœur, donc vraiment agir avec cette envie, avec cette ouverture. Et ouais, c'est extrêmement inspirant ce que tu nous racontes là. C'est un exemple magnifique. Hein. Ouais.
Ça m'a beaucoup inspirée, c'est clair. Ces femmes-là, elles ont été. J'ai toujours eu l'impression qu'elles m'ont appris beaucoup plus que moi je leur ai appris.
Ouais. Tu as écrit un livre aussi. Est-ce que tu peux nous donner le titre de ton livre?
Alors, c'est pas tellement sur les femmes, hein, c'est cet amour-là, pas si simple.
Ouais, pas si simple.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui découvre, enfin qui tombe amoureux d'un autre jeune homme, hein, qui lui est gay assumé, et qui doit faire ce parcours. D'accepter cet amour-là ou pas, et d'accepter ce que ça implique pour lui, d'accepter cette transformation, ce changement d'identité que ça implique par rapport aux autres, par rapport à son entourage, par rapport à à ce qu'il fait dans la vie, à l'image qu'il avait de lui-même. Voilà. Et en parlant, je me rends compte combien c'est personnel, hallucinant. J'ai toujours dit que c'était pas du tout autobiographique, ce bouquin, puisque c'est pas ce qui m'est arrivé à moi.
C'est pas ton histoire, ouais.
Mais par contre, ce parcours de transformation et d'assumer son identité, d'assumer qui on est et d'assumer cette transformation par rapport aux autres, ben oui, j'ai dû le faire moi.
Ouais.
Notamment rien qu'en écrivant ce bouquin, parce que je me suis retrouvée face à un entourage. J'avais pris un pseudo, hein.
on peut le trouver, enfin ton livre, on peut le trouver aujourd'hui. Ouais, c'est du coup qui es-tu?
C'est sous le pseudonyme de Arabelle Cybelle Ardant, qui est l'anagramme de mon
de ton vrai nom. Bon ben voilà, maintenant on le sait, hein.
Exact.
Bon, on n'est pas sur une chaîne de grande écoute à 20h, mais celui qui trouvera cette vidéo maintenant...
Voilà, on peut lire mon livre. Voilà. Mm. Donc, je pense que j'avais envie d'écrire. Je me suis toujours posé la question. L'homosexualité est un truc qui m'a vachement interpellée quand j'étais étudiante. C'était la période où il y avait les gays revendiquaient leurs droits, où il y avait le sida qui commençait.
Ouais. Et puis oui, on est de la génération sida, enfin ouais, toi exactement. Et moi aussi. Enfin moi, j'ai vraiment vécu mon éveil sexuel avec le sida en tête en permanence. On était vraiment très très instruits sur la question à l'époque, et ouais.
Et moi, ça démarrait, et c'était du coup ça m'intriguait, et je me demandais comment on fait, parce que là, ils revendiquaient leurs droits, ils s'assumaient, ils essayaient de se faire voir dans la société, de se rendre visible, d'exister.
Oui, c'était pas simple.
Et de s'affirmer, alors qu'il y avait cette maladie qui arrivait par-dessus pour les annihiler encore complètement. Enfin, vraiment, c'était terrible. Et là, j'ai transposé cette histoire-là, en fait, dans le contexte du mariage pour tous, des manifestations. Pour tous. Effectivement, je me suis posé des questions à l'époque, j'ai fait des enquêtes, des mémoires là-dessus, sur la question de l'homosexualité. J'ai rencontré un couple notamment qui est mort du sida. Voilà, j'ai failli pendant longtemps raconter cette histoire-là,
ouais.
Mais cette histoire-là ne m'appartenait pas. C'était leur histoire. Il aurait fallu que je recontacte la famille, etc., de savoir si j'avais le droit de raconter leur histoire. Et donc, j'ai changé un peu beaucoup de choses. Et puis, je me posais la question, mais comment on fait, en fait, pour assumer sa différence en soi-même, déjà, pour soi-même, et vis-à-vis des autres. Et là, je me rends compte que ça me rejoint, moi, dans mon parcours que j'ai fait ces derniers temps avec l'école des femmes, notamment. Voilà.
Ouais, oui, c'est super intéressant. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'avais retenu que c'était une histoire de femme. Mais c'est vraiment cette question autour de qui je suis et comment je deviens qui je suis. quel que soit l'endroit d'où je parte et quel que soit d'ailleurs ce qui je suis finalement et ce parcours, ce cheminement. Et tu vois, quand tu dis ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à mon propre bouquin « Femme-S », où à la fin, quand je l'écris, je l'écris avec un angle sur les femmes et la prise de position des femmes dans la société. Et en fait, au fur et à mesure où je l'écris, et même quand j'en ai parlé après, par la suite, je dis, mais en fait, je parle de toutes les personnes qui ont encore à prendre leur place dans la société. Donc, les femmes, tu parles des homosexuels, les homosexuels, les jeunes des banlieues. En fait, toutes ces personnes, et en fait, chacun d'entre nous qui sommes soumis à un certain déterminisme. Et en fait, on l'est tous soumis à un certain déterminisme, finalement.
Exactement. Et les femmes ont encore à prendre leur place dans la société. Exactement, oui. De la même façon finalement. On croit que les femmes sont, c'est bon, maintenant elles ont tous les droits, tout va bien. Et c'est exactement la question qui m'a été renvoyée par rapport aux homosexuels. On me disait, mais c'est bon maintenant, ils ont tous les droits, ça va, ils ont tout ce qu'il leur faut, pourquoi t'écris un truc là-dessus? Non, c'est pas si simple. Voilà, d'où le titre.
Exactement.
C'est pas du tout si simple que ça. Ils subissent toujours de l'agression, toujours cette différenciation. Qui permet au corps social de se distinguer. On est nous et il y a les autres. Et les autres, c'est tous ceux qui sont différents. Et c'est encore une insulte, c'est encore machin. Et les femmes sont dans ce cas-là, sont encore dans ce cas-là où finalement tout est encore pensé au masculin. Alors ça change au niveau du langage, on essaye de changer des choses, mais tout est encore pensé au masculin. Le neutre, l'élément de base, c'est l'homme, c'est le masculin. Et tout ce qui est autour, c'est différent.
Ouais.
C'est différent. Et du coup, ça questionne sur qu'est-ce qu'elles ont droit de faire, comment elles ont droit de s'habiller, qui est un quelque chose au cœur de notre société, qui est très fort. Voilà.
Oui, c'est pas du tout acquis, y compris chez les femmes, qu'on pourrait dire les femmes libérées, qui travaillent, qui sont indépendantes. Moi, j'ai beaucoup de femmes, ça me surprend parce que, bon, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais je conçois qu'il existe. Et du coup, moi, je me dis, il existe encore, mais bon, ouais, ça c'est ouais, ma vision, voilà. De femmes qui travaillent, qui sont indépendantes et qui ont envie, par exemple, de faire le programme de l'école des femmes inspirantes et qui me disent, bon, bah, c'est super, j'ai très envie, j'ai les moyens parce que voilà, je bosse, etc. Je vais demander à mon mari.
Ben oui.
Et je suis toujours un peu interpellée. Ouais,
c'est ça, alors que quand ils ont envie de faire quelque chose, et ils nous en informent après.
Ah bah oui, et ça je le vois d'ailleurs dans les signatures d'accompagnement. Quand j'ai un homme, ça se fait dans la demi-heure. Voilà. Il a envie de le faire, il signe, le virement est fait, c'est terminé. Et les femmes, ouais, il faut que j'en parle avec mon mari. Enfin, c'est plus long, quoi. Le processus décisionnel est plus long, le fait d'assumer.
Elles sont pas seules. Elles ont souvent une famille, des enfants et un mari dont elles tiennent compte. Ouais. Pas forcément encore dans la soumission, c'est pas forcément dans ce sens-là.
Non.
Justement, les femmes, c'est ce que j'ai remarqué vraiment très très fort, et dans ces 6 mois passés dans l'école des femmes aussi, c'est flagrant, les femmes se retiennent beaucoup, se contiennent beaucoup, se restreignent beaucoup, parce qu'elles pensent avant tout à leurs enfants, à leur famille, et à se dire, non mais attends, moi je ne vais pas mettre ce budget-là pour moi, alors que y a l'école des enfants, il y a les loisirs des enfants, on devait acheter une voiture pour Marie cette année, il y a tout un tas de choses qui vont passer avant,
ouais, avant elles. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment hyper important de rappeler ça. Et tu vois, hier soir, en rentrant de mon cabinet, j'écoutais un podcast. Moi, je suis assez proche de Christine Levicki et j'écoute ce qu'elle fait. Donc, je vous invite aussi à aller écouter son podcast qui est formidable. Et elle a interrogé Marie-Éloi, qui est une ancienne journaliste et qui a fait vraiment des choses superbes et qui là est un peu plus visible d'ailleurs actuellement dans les médias, qui a créé... des accompagnements aussi pour des entrepreneurs. Et en fait, Marie-Éloi donnait les stats, donc c'était vachement intéressant. Et elle disait que, à cette objection qu'il y a, oui, non, mais ça y est, c'est bon, les choses sont en place, les femmes ont leur place et tout. Bon, moi, je savais qu'il n'y a que 17-20% de femmes dans les comités de direction, les comités exécutifs. Ça, je le dis souvent dans mes communications. Donc, je dis, bon, allez, les femmes, prenez votre place dans les postes de direction. Et là, on pourrait toujours nous rétorquer, oui, bon, ben voilà, mais ça, c'est les places, c'est pour ceux qui sont en haut, quoi, machin et tout, et ça ne concerne pas les autres. Et puis, il y a des métiers où les femmes sont très présentes dans l'enseignement, dans ceci, dans cela. Oui, et en même temps, quand on regarde à niveau égal, et notamment sur des postes élevés, eh ben, même si au départ, on avait 80% des femmes présentes, eh ben, à la fin, sur les postes de responsabilité, on retrouve des hommes. On retrouve de nouveau des hommes. Donc ça, ça c'était un fait marquant. Et quand tu disais « tout est pensé au masculin », je donne juste cet exemple-là parce que ça m'a marqué. Elle disait que, par exemple, aujourd'hui, on a des casques hein, de réalité virtuelle. Hein. Oui, oui. Et ben, les premiers casques de réalité virtuelle ont été construits et mesurés sur des crânes d'hommes. Ce qui fait que quand on le mettait sur un crâne de femme, il y avait des problèmes en fait, d'ajustement au niveau oculaire, etc. Donc, les femmes n'arrivaient pas à profiter de l'expérience de réalité virtuelle parce que les casques n'avaient pas été faits pour les femmes.
Pour les femmes.
Conçus pour les femmes. Donc, voilà. Donc, clairement, oui, il y a encore des choses dans notre monde qui ne sont pas pensées voilà, de la même manière peut-être qu'on a pas pensé les ciseaux pour les gauchers. Il a fallu avoir du temps pour avoir des ciseaux faits pour les gauchers. Eh ben, c'est pareil pour les femmes, en fait. Alors, venons à notre sujet des femmes à multiples facettes. Donc, moi, je fais cette proposition, femme-S, unique aux multiples facettes. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Et si c'est le cas, comment ça résonne pour toi?
Alors, les femmes aux multiples facettes, oui, bien sûr que ça résonne. Alors, le mot femme-S, je t'avoue qu'au début, il m'intriguait, je ne comprenais pas bien. Et j'ai cherché, je me dis, mais elle doit bien avoir mis une définition quelque part. C'est quoi au juste femme-S? Et quand on me demandait, quand j'ai dit, bah ouais, bah, je me suis inscrite dans un accompagnement, voilà, les femmes, machin, hein, femme-S, et c'est quoi femme-S? Et bah, je disais, bah, c'est les femmes plurielles. C'est des femmes qui ont un potentiel multiple. Voilà, je disais ça du coup, parce que je n'avais pas vraiment...
Ouais, c'est assez vrai.
C'est pas mal, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que ça, j'avoue que ce S m'intriguait. Maintenant, bah oui, oui, multiple facettes, quoi, multipotentiel. Tu parles beaucoup de multipotentiel. Mmh. De potentiel, voilà, de haut potentiel. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais vu une vidéo, en fait, c'est ça qui m'avait fait... craquer, entrer dans l'école. J'ai vu une vidéo de toi où tu expliquais un peu tout ton parcours et, enfin, de cette école, et ce que tu pensais des choses, etc. Et il y avait le mot HPI, les femmes à haut potentiel. Et moi, je pense que j'en étais une, en tout cas, je ne sais pas si je le suis toujours, mais j'en étais une. Et que ça fait partie, je pense, c'est cette fameuse différence qu'il a fallu assumer. Voilà, je crois qu'elle est là, cette fameuse différence. Le fait d'être une femme, mais bon, ça, moi, je n'ai jamais considéré ça comme une différence, personnellement. Donc, à la limite, ceux qui trouvaient ça différence, c'est eux qui ne vont pas bien. Quand j'étais petite, moi, perso, je trouvais les garçons bizarres. Et puis, le fait qu'ils aient ce truc qui pendouille entre les jambes, je disais, ça ne doit pas être pratique hein, pour courir. Donc, je ne les enviais pas et je ne me disais pas, ça doit être mieux d'être un garçon, pas du tout. Ouais. Mais après, en grandissant, c'est plus compliqué. Effectivement, on se rend compte en essayant de prendre sa place dans la société que c'est plus complexe. Non, je crois que la différence essentielle, c'était que j'étais différente dans ma façon d'être, de penser, de ressentir les choses. Je suis hypersensible. Hein, et dans ma famille, ça a toujours été vécu comme la différence qu'on ne comprend pas, quoi. Voilà. Donc, on ne parlait pas tellement de tout ça. Et moi, j'ai failli passer des classes, je dis louper, passer des classes, sauter des classes, et ma mère n'a jamais voulu. Ma mère n'a jamais voulu parce que ça aurait été me mettre en décalage avec les autres. Donc,
intéressant.
Voilà. Moi, j'avais toujours fini la première. J'ai eu la chance d'avoir un instituteur pendant 2 ans qui était génial, qui nous ouvrait sur tout, sur la nature, les arts. Il ne se contentait pas de faire des maths et du français, quoi. C'était absolument génial avec lui. Et il avait fait une petite bibliothèque dans un coin de la classe. Quand j'avais fini, il m'amenait doucement dans la bibliothèque. Il me disait, tiens, je pense que ce livre, il va t'intéresser. Voilà, et c'était super parce qu'il ne me mettait pas non plus en porte-à-faux vis-à-vis des autres. Moi, je pouvais ne pas m'ennuyer. pendant ce temps-là. Donc ça, c'était super. Alors sinon, multiple facettes, c'est aussi, moi j'ai l'artistique, par exemple, j'ai toujours eu des talents artistiques, mais qui n'ont pas été reconnus dans ma famille non plus. L'artiste, c'était mon frère. Voilà, l'intellectuel du coup, et lui, c'était l'artiste. Et donc moi, j'avais pas le droit, en quelque sorte, ben si, si, voilà. Donc effectivement, j'ai pas choisi un métier dans l'artistique, je suis pas allée vers cette... ce côté-là, mais maintenant je ressens beaucoup l'envie et le besoin d'exprimer mes multiples facettes, voilà. Et notamment, j'ai découvert durant cet accompagnement que j'ai fait avec l'école des femmes l'art-thérapie, voilà. Et c'est super, c'est juste super. Ça mêle justement mes deux facettes, le côté thérapeutique. Thérapeutique et simplement bien-être, quoi, aller mieux dans sa vie, dans sa tête. Voilà, je suis assez branchée psychologie positive, où on n'est pas obligé d'aller mal pour aller bien, et qu'on peut tout à fait se faire du bien et de multiples façons. Et l'artistique est une manière de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, ce qu'il y a en soi, cette particularité, c'est. Et puis de comprendre certaines choses. Et ça, c'est juste.
Est-ce que pour pouvoir, justement, tu disais, avoir cette possibilité d'exprimer ces facettes vis-à-vis de ta famille, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû dépasser, du coup ? Est-ce que ça t'a amené à transcender des choses ?
Oui, alors oui, clairement, en tout cas, pendant cet accompagnement, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû me repositionner en tant qu'adulte femme. Par contre, par rapport à mes différences, je ne les clame pas sur tous les toits déjà. Et puis, j'ai toujours été assez modeste, toujours modeste. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, simple et humble. C'est toujours quelque chose qui m'a été souvent renvoyé, que je reste simple. Et quand j'ai écrit mon bouquin notamment, c'est un truc qui m'a été vachement renvoyé. Oh, tu as écrit un livre et tu restes simple. Pourquoi je ne resterai pas simple en fait ? J'ai juste écrit un livre. C'est quoi ? C'est rien. Bon, peut-être après, il faut pas.
Non, c'est pas rien, mais je pense que tu touches le. C'est quelque chose dont on parle souvent, de cette distinction entre la modestie et l'humilité. Il ne s'agit pas de minimiser ce que tu as fait. Tu as écrit un livre. C'est quelque chose d'écrire un livre, c'est pas simple, c'est pas si simple. Voilà, c'est un vrai cheminement, c'est un vrai travail, c'est une vraie endurance. Enfin voilà, donc c'est quelque chose d'écrire un livre. En revanche, donc on n'a pas à le minimiser. En revanche, l'humilité, c'est vraiment le fait d'être ancré là-dedans et que, du coup, t'as pas besoin d'en faire trop ni pas assez en fait. Tu as juste d'être au bon endroit et c'est ça dont tu es en train de nous parler, je pense. J'ai finalement assumé, il y avait le mot assumé qui m'est venu, tu vois, quand tu as dit je me suis repositionnée ces derniers mois, je pense que c'était déjà là, mais peut-être à un moment donné, tu as eu besoin de réajuster. Mais c'est cette question de j'assume qui je suis, comment je le suis, et j'ai en effet pas besoin de le crier sous tous les toits, mais je suis pas obligée non plus de ne pas le dire. Voilà, juste je vis, quoi, je vis dans ma vie et dans qui je suis. Ouais.
Voilà, sans être dans la revendication, ni je sais pas, être super fière,
Ni super fière, mais ni absent à soi-même et à ses talents. Parce que le plus souvent, quand même, moi, je rencontre moins, en tout cas, de femmes super fières que de femmes qui s'empêchent, en fait, d'être présentes à leurs talents. Et l'invitation, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en étant présente à votre talent, vous ne serez pas en train de vous envoler. Hein, vous serez juste qui vous êtes, quoi.
En fait, c'est la bonne place, quoi, finalement.
Ouais.
C'est un truc que j'avais besoin de retrouver. Enfin, beaucoup de personnes qui rentrent dans l'école des femmes que je suis en accompagnement. C'est souvent ça, la question de la place, en fait. La place, trouver ma place, et ça, c'est un truc, on patauge des fois dessus. on a toujours le sentiment de ne pas avoir trouvé sa place. Ouais. Mais en fait, c'est parce que finalement, on n'est pas forcément aligné. Enfin, c'est un mot qui est fréquent dans le bien-être, que je ne comprenais pas tellement jusqu'à
moi non plus, je ne le comprenais pas très bien. Voilà. Mais je comprends mieux maintenant.
Voilà, en phase avec, avec ce qu'on est, en fait. Tout simplement, ouais. C'est être normal, être ouais. normalement soi.
Être normalement soi, être soi, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que, dans le contexte actuel, qui a quand même aussi beaucoup pressurisé les femmes, voilà, de 2 ans quand même de difficultés, de confinement, de charges supplémentaires, d'école à la maison, de voilà, plein de choses qui ont un impact, qui ont un impact et qui auront un impact durable sur les femmes. Et d'ailleurs, on en parle, mais pas trop. Enfin bref, je pense que ce sera quelque chose à surveiller quand même sur les prochaines années. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux femmes ? Quelle invitation tu aurais envie de leur proposer dans ce contexte ?
Je dirais, ne vous effacez pas. Ne vous noyez pas. Ne vous écartez pas. Parce que la vie va avoir, la société va avoir tendance à vous écarter, à vous effacer. Et on voit, ça me fait penser à la servante écarlate. Je suis en train de penser à ça en même temps. Et je suis en train de penser à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, à ce qui se passe au Pakistan. Il suffit de pas grand-chose, d'un renversement de gouvernement, d'un changement politique, d'un changement social, et avec le changement climatique, les temps risquent de devenir difficiles au point de vue économique, social, les migrations climatiques, etc. Et là, et ben évidemment, on va sacrifier des pions. Hein, ouais. Comme disait Simone de Beauvoir, que tu cites dans ton livre.
Exactement. Je pensais à elle tout de suite. Et en effet, hein, c'est cette citation que je dis dès que je peux la dire, c'est en effet, ayez conscience qu'il suffira d'une crise religieuse, politique, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ce ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant de votre vie durant. Et en effet, c'est très juste, et merci de citer ce qui est en train de se passer en effet dans l'actualité, et ces retours en arrière sur des combats. Donc redis-nous ton invitation.
Ne vous effacez pas.
Merci beaucoup Isabelle, on va rester sur cette note-là et sur cette invitation, ne vous effacez pas. Merci d'avoir accepté d'avoir cet échange ensemble, j'en suis vraiment ravie.
Avec plaisir. Le plaisir était pour moi.
À bientôt à toutes pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À très bientôt.